dans sa parole. On va continuer finalement la série qu'on a débutée il y a quelques semaines dans le livre de Ruth, qui contient 100 versets. On va aller des versets 8 à 18 ce matin, ensemble. Alors, ça va correspondre un peu aussi au témoignage d'Adrien et à tout ce qu'on a entendu. Bon, sans savoir vraiment ce qui se passerait ce matin, je pense que le Seigneur fait bien les choses. À travers tout ce qu'on a entendu, je pense que le message va regrouper tout cela. Et je pensais au témoignage d'Adrien tantôt, je me disais, ça prend bien belle, je peux aller aux États-Unis pour rencontrer le Seigneur et revenir ici. Pour le Seigneur a des voies incroyables. Hein? Tu quittes un pays, dans ton pays, tu es indifférent à l'Évangile, il s'agit d'aller dans un autre pays. Et finalement, tu es touché par la grâce de Dieu, par la parole. Et le Seigneur savait ce qu'il faisait. Il a placé Adrien dans un foyer chrétien. Et c'est magnifique. Le Seigneur sait exactement ce qu'on a besoin. Et le Seigneur, ce matin, eh bien, c'est exactement ce que chacun d'entre nous a besoin. Et il a une portion en réserve pour chacun de nous. Verset 8, Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa, les embrassa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. » Et quand je dirais, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Prions. Seigneur, encore une fois, nous voulons te remercier pour cette parole qui est descendue du ciel, qui a été imprimée, inscrite dans ton livre, la sainte parole de Dieu, pour s'adresser à nos cœurs, pour nous fortifier, pour nous exhorter, pour nous reprendre, pour nous montrer quel Dieu tu es, quel Dieu merveilleux, quel Dieu puissant tu es, et combien encore aujourd'hui tu veux faire grâce à quiconque veut se détourner de ses voies pour se tourner vers toi. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Nous t'implorons, Seigneur, de nous accorder ton aide, afin que ce ne soit pas l'homme que nous entendions, mais que ce soit vraiment ton Saint-Esprit qui parle à chacun des cœurs ici présents. Et tout cela, nous te demandons pour la gloire de ton nom. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alors, lors de notre dernière rencontre, nous avons vu que le pays qui offrait soi-disant une qualité de vie supérieure est finalement devenu le tombeau de trois hommes de la même famille, dont le mari de Naomi et ses deux fils. Et aujourd'hui, nous allons voir le chagrin de trois femmes qui venaient d'enterrer leur mari. Et c'est l'histoire d'une belle-mère et de ses deux belles-filles qui se retrouvent chacune dans une situation précaire, sans ressources et le cœur brisé par les événements de la vie. Et la dernière fois qu'on s'est parlé ensemble, on a vu que quand on tombait veuve, c'était une des pires choses à avoir à cette époque-là parce qu'il n'y avait pas d'aide sociale. Il n'y avait pas d'assurance chômage et les veuves étaient prises pour se débrouiller toutes seules avec leurs enfants et avec tout ce que leur mari leur avait laissé. Chacune de ces femmes nous enseigne ce matin, je pense, quelque chose d'important. Chez la première veuve, nous avons un exemple qui va nous préoccuper, on va le voir ensemble. Un exemple préoccupant. Chez la deuxième veuve, on a un exemple qui est tragique. Et finalement, chez la troisième veuve, eh bien, nous avons un exemple qui est encourageant, qui est fortifiant pour nous ce matin, et c'est avec ça qu'on va terminer notre message. Et j'aimerais qu'on regarde rapidement ici, parce que le temps file, rapidement ensemble les trois enseignements que nous pouvons retirer de ces trois veuves ce matin. On voit Naomi, premièrement, une veuve décourageante. La première veuve que je voudrais examiner, c'est Naomi. On a vu la dernière fois comment elle avait délaissé le Seigneur en quittant son pays pour s'installer dans le pays de Moab. J'aimerais maintenant que vous remarquiez les paroles décourageantes qu'elle a prononcées. Naomi démontre jusqu'à quel point la vie d'un croyant qui ne vit pas pour Dieu est souvent une source de découragement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et pourtant, Naomi, ici, eh bien, elle aura été observée pendant son séjour à Moab. Orpha et Ruth, on se rappelle, étaient nés à Moab, c'est ce que le texte nous dit un peu avant. Elles avaient grandi dans un pays qui avait renié Dieu et dont les habitants adoraient toutes sortes d'idoles. Elles avaient été élevées dans un pays qui ne connaissait pas le vrai Dieu vivant, le Dieu de la Bible, et au point de vue spirituel, eh bien, leur vie n'était que désolation et ténèbres. Je tiens simplement à rappeler que Moab, c'était un pays qui avait été maudit par Dieu parce qu'il vivait sans Dieu, il allait à l'encontre finalement de tous les principes de Dieu, aussi ce qu'il avait fait. On se rappelle à partir de Lot et tout ça qu'on a parlé la dernière fois, mais bon, on ne reviendra pas là-dessus ce matin, mais simplement se rappeler ce matin que Moab, c'était un peuple maudit par Dieu. Cependant, Naomi, qui était née dans la ville de Bethléem, dans le pays de Juda, connaissait le seul vrai Dieu vivant. Et nous pourrions dire que Naomi, finalement, à travers Naomi, eh bien, Ruth et Orpa connaissaient le chemin qui allait au ciel, même si elle venait d'un pays étranger à tout ce qui concerne Dieu. Nous lisons ici, versets 6 et 7, nous lisons, « Au pays de Moab, Naomi apprit que le Seigneur avait visité son peuple et lui avait donné du pain. » En d'autres mots, Naomi, elle va apprendre par quelqu'un que le Seigneur avait été favorable à son peuple et qu'il lui avait donné de bonnes récoltes. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Le texte nous dit qu'elle va se lever, elle, avec ses deux belles filles, afin de quitter le pays de Moab dans lequel elle se trouve. Elle va sortir du lieu dans lequel elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda, versets 6 et 7. Et Naomi, on se rappelle, avait quitté le pays de Dieu, et le Seigneur l'avait disciplinée. Et on a vu la dernière fois, bon, on ne rentrera pas dans les détails, on a vu quelle sorte de discipline elle avait eue. Et ici, ce qu'on voit ce matin, eh bien, elle est en train de se préparer à retourner dans son pays. Et lorsqu'elle décide de partir, ses deux belles filles vont la suivre. C'est un peu normal, elle est veuve, elle n'a plus aucune espérance, elle ne peut pas compter sur l'aide de personne. Et ses deux belles filles qui sont aussi, elles, veuves, elles ne peuvent pas compter sur l'aide de personne. Et la première chose qui va les intéresser, c'est de suivre leur belle-mère. Et dans la condition désespérée dans laquelle elles se trouvaient, il semble que Ruth et Orpa pensaient trouver, finalement, en Naomi, une bienfaitrice qui donnerait un sens à leur vie et une direction à leur vie. Elles surveillaient ce que Naomi ferait, et peu importe ce qu'elle ferait, elles la suivraient. Elles observaient chaque action et chaque pas de Naomi. Et nous devons nous rappeler, frères et sœurs, en tant que croyants, c'est que nous sommes constamment, nous aussi, observés par ceux qui ne connaissent pas Dieu. Peu importe que nous le reconnaissions ou pas, peu importe que nous l'acceptions ou pas, peu importe que nous l'admettions ou pas, les gens autour de nous nous observent. Et j'ai bien aimé le commentaire d'Adrien tantôt, qui a dit finalement que même s'il rejetait la religion des gens qui l'avaient, qui l'hébergeaient, c'est le témoignage des gens, le témoignage de vie des gens qui l'attiraient, qui le frappaient finalement. Et les gens, frères et sœurs, ils nous observent. Il y a quelques années, Samuel Stebelski pourrait peut-être m'aider, il y a un grand monsieur qui est venu ici, ça faisait peut-être 6 mois qu'il n'était pas lavé, 6 mois, 1 an, tu te souviens, hein, Guy Engelin, qui avait les cheveux très très longs jusqu'aux épaules. J'avais l'impression que c'était lavé dans une poêle à frire, tellement que c'était gras, tellement qu'il était sale. Il s'était venu ici, il était rentré ici, il était habillé en motard. On lui avait témoigné durant la semaine, il avait pris une décision pour le Seigneur. On l'avait invité à venir à l'église. Et aux surprises, on le voit arriver le dimanche matin, il rentre ici, mais habillé comme on l'avait rencontré. Il avait perdu sa femme, ça faisait 6 mois, et sa seule nourriture, c'était de boire de la bière, de la bière, de la bière, de la bière, c'est tout ce qu'il buvait. Eh bien, c'était presque 24 heures sur 24. Alors, ça vous donne une idée dans quel état était la maison et dans quel état était le bonhomme. Et quand il est entré ici dimanche matin, il n'a pas dit un mot, il s'est assis. Et par la suite, on a invité les gens à venir prendre une tasse de café au sous-sol après la réunion, il est descendu. Et je suis allé le trouver, j'ai dit, Guy, comment t'as trouvé? J'ai dit, je suis vraiment content de te voir que tu es venu à l'église, que tu as accepté notre invitation. J'ai dit, c'est quoi ta première impression? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, écoute, je suis fait exprès pour venir habiller comme ça pour voir si les gens me jugeraient. Il dit, j'ai voulu observer la réaction des chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens par rapport à mon habillement, par rapport à ma personne. Et il était agréablement surpris que même dans sa condition, des gens de l'Église soient allés le trouver pour lui souhaiter la bienvenue, pour lui dire qu'il était vraiment chez lui ici, dans la famille du Seigneur et qu'il pouvait venir quand il voulait. Et ça l'avait touché. Et bon, par toutes sortes de circonstances, il a dû quitter sa maison et s'en aller en Espagne. Mais Guy avait venu ici quelques fois et le témoignage l'a vraiment touché. Et j'ai connu d'autres personnes qui sont venues à l'église dimanche après dimanche. Et je leur disais, écoute, t'entends le message de l'Évangile, qu'est-ce qui te manque pour prendre cette décision? Vous savez ce qu'il y en a qui m'ont dit? J'observe le comportement de ceux qui se disent chrétiens. Notre témoignage est important. Notre témoignage. Et Naomi et Ruth ici, eh bien, elles observaient le témoignage de Naomi qui se disait faire partie du peuple de Dieu. Elles regardaient son témoignage. Elles savaient qu'elles seules connaissaient le vrai Dieu vivant, celui qui avait créé le ciel et la terre, celui qui avait libéré à travers toutes sortes de miracles le peuple d'Israël d'Égypte. Elles savaient que Naomi connaissait ce vrai Dieu. Et elles observaient Naomi. Paul écrit, « Il me semble que Dieu a fait de nous qui sommes apôtres, les derniers des hommes, en quelque sorte des condamnés à mort, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes, dans 1 Corinthiens. » Le mot « spectacle » ici, dans le grec, fait référence à un théâtre. Frères et sœurs, nous sommes sur l'estrade de ce monde et notre conduite est examinée par ceux qui ne connaissent pas Dieu. Frères et sœurs, celui qui est mort sur la croix pour nous, s'il avait pratiqué le contraire de ce qu'il enseignait, vous pensez que l'Église sera encore sur pied aujourd'hui? Jamais de la vie, hein? La puissance de Jésus-Christ se trouve non pas seulement dans les paroles qu'il a prêchées, mais aussi dans sa pratique. Priez pour vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Il n'y a pas une religion qui proclame ça. Il y a une personne. Et cette personne, c'était Dieu incarné qui pouvait non seulement le prêcher, mais aussi le pratiquer. Et le miracle de la nouvelle naissance, c'est que cet esprit qui habitait en Christ, qui lui permettait de mettre en pratique ce qu'il enseignait, c'est cet esprit-là qu'on reçoit. C'est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que les gens devraient être attirés quand ils nous rencontrent. On n'a pas besoin de marquer « je suis chrétien » dans le dos. Je connais Jésus en avant. Les gens devraient dire « hey, il y a quelque chose que je cherche depuis toujours. Cette personne est là ce que je recherche. Cette personne est là ce que mon cœur cherche désespérément. » Pourquoi? Parce que c'est pas une religion, c'est une personne. On enseigne une personne. Pourquoi inviter les gens à l'Église? Pourquoi essayer de leur faire quitter une religion pour en adopter une autre? C'est échanger, au Québec, on dirait c'est échanger 1 euro pour 5 pièces de 20 cents. C'est la même chose, c'est du pareil au même en bon français. Et quand on invite les gens à entendre l'Évangile, on vient pas inviter les gens à subir un cérémonial religieux. On invite les gens à entendre l'Évangile, pourquoi? Pour qu'ils puissent faire cette rencontre de Christ crucifié et ressuscité. Et ça, c'est le seul message que l'Église évangélique a proclamé. Et dans la pratique, en tant que chrétien, démontrer qu'on a fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ et que ce qui lui donnait la puissance, la force de pouvoir mettre en pratique ce qu'il prêchait, eh bien, on l'a reçu, on a hérité de ça. On est héritier du royaume de Dieu. On n'est pas juste des enfants de Dieu, mais on est héritier du royaume de Dieu. On est hérité de tout ce que Dieu a donné à Jésus-Christ. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et Naomi, elle connaissait ça. Ouais. Mais a-t-elle été vraiment un bon témoignage pour ces deux belles filles? Sommes-nous des bons témoignages pour nos enfants? Sommes-nous des bons témoignages pour nos femmes? Sommes-nous des bons témoignages pour nos époux? Sommes-nous des bons témoignages pour notre voisinage, frères et sœurs? Sommes-nous notre bon témoignage sur notre lieu de travail? Est-ce que les gens sont capables sur notre lieu de travail de dire « cette personne, elle a quelque chose qui est différent et c'est ce que je recherche depuis toujours? » Est-ce que les enfants nous regardant vivre à la maison pourraient nous dire « bande d'hypocrites? » Ou tu as vraiment fait cette rencontre avec la personne de Jésus-Christ? Les religieux, Jésus les a décrits à travers les pharisiens, c'est une bande d'hypocrites. Et gloire à Dieu qu'à travers Jésus-Christ, c'est pas une religion, mais que c'est une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ. Je suis pas en train de vous parler du mouvement protestant. Je suis en train de vous parler de l'Évangile. Protestantisme, c'est une religion. Je suis en train de vous parler de l'Évangile. Je suis en train de vous parler du mouvement évangélique. Celui qui est capable de bouleverser ce monde. Celui qui est capable de renverser les forteresses. Celui qui est capable de renverser les dictatures et mettre des démocraties qui ressemblent à celles de Dieu. Nous voyons aussi dans ce passage que Naomi était un obstacle pour ses belles-filles. Frères et sœurs, non seulement elle était un mauvais témoignage, mais elle était aussi un obstacle. Une des premières préoccupations d'un croyant, c'est d'amener une personne à connaître le Seigneur Jésus-Christ d'une manière personnelle. Nous sommes appelés à amener les autres à vivre fidèlement comme Dieu le demande. Quelqu'un qui est en route pour le ciel agit pour amener les autres à prendre le chemin qui conduit au ciel. Il est étonnant et préoccupant de voir que plutôt que de chercher à amener ses belles-filles à se tourner vers Dieu, Naomi, ici, sa première réaction, c'est de les amener à se détourner de Dieu. Vous avez remarqué dans le passage ici, verset 8a, remarquez ce qu'elle dit, « Allez que chacune retourne à la maison de sa mère. » Elle les a plutôt encouragés à demeurer dans le pays de Moab, qui adorait des centaines d'idoles, qui vivaient comme si Dieu n'existait pas, et elle les a découragés à venir avec elle au pays de Juda. Le début du texte ne dit pas que c'est elle qui les a invités à venir. Elles ont, les deux belles-filles, suivi leur belle-mère. Et en cours de route, la belle-mère, elle décide de dire, « Oh, un instant, hey, retournez dans votre pays. » Elle leur dit que l'Éternel, verset 8b9, elle leur dit que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi, c'est-à-dire envers vos maris et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les embrassa, nous dit le texte. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles avaient été de bonnes épouses et de bonnes belles-filles. Elles avaient manifesté beaucoup de bonté envers Naomi. Mais celle-ci va leur demander de refaire leur vie en trouvant un bon mari dans leur pays. Nous voyons également dans ce passage, versets 10 à 13, frères et sœurs, jusqu'à quel point Naomi a pu les blesser par ses paroles. Elles lui dirent, « Nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Quelqu'un vous demande de venir à l'église, tu dis, non, 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 non. Tu as des matchs de foot le dimanche matin, continue. Tu as aussi le dimanche matin, continue. Non, non, viens pas à l'église. » Hey, c'est le même principe ici, hein? Pourquoi viendriez-vous avec moi? C'est pas moi qui parle, hein? C'est le texte, hein? 10 à 13. Je ne suis plus en âge d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris. Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, il y a encore de l'espoir pour moi, même si cette nuit je serais avec un mari qui me donnerait des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. À cause de vous. J'ai permis à mes fils de marier des non-chrétiennes. J'ai quitté Dieu, j'ai délaissé Dieu pour venir dans un pays qui ne connaît pas Dieu. À cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes deux enfants. Naomi est en train de parler de ce qu'elle connaissait du mariage juif. Hein, on se rappelle, si un homme mourait, eh bien, sans enfant, son frère devait marier la veuve et continuer la lignée familiale. Et le premier-né d'un tel mariage, qu'est-ce qui arrivait, était considéré comme étant l'enfant du frère décédé et son héritier. Naomi était en train de dire ici à ses belles-filles, « Je n'ai pas d'enfant, je suis trop vieille pour en avoir d'autres. Retournez-vous vers les gens de votre pays et repartez à zéro. Trouvez-vous un homme parmi les membres du peuple de Moab et non pas parmi les membres du peuple de Dieu. » Naomi pensait seulement à la condition matérielle de ses belles-filles plutôt qu'à leur condition spirituelle. Frères et sœurs, qu'en est-il de nous pour nos enfants? Est-ce que c'est la réussite à tout prix dans la vie qui nous préoccupe pour nos enfants? Ou si c'est d'abord la réussite spirituelle qui se réalise à travers la rencontre de la personne de Jésus-Christ? Jésus a dit, à quoi sert-il un homme de gagner son âme s'il perd, de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi sert-il à nos enfants d'être bardés de diplômes si ça les amène à délaisser complètement Dieu et être perdus pour l'éternité? Frères et sœurs, quelles sont nos ambitions pour nos enfants? Ils ont un prix à payer pour réussir dans cette vie à tout prix. Et c'est souvent au détriment de notre âme, frères et sœurs. Oui. Contentons-nous de ce que nous avons. Si nous avons le vêtement, la nourriture et le logement, nous dit la parole. Naomi pensait seulement à la condition matérielle de ses belles-filles plutôt qu'à la condition spirituelle. Elle pensait seulement à leurs besoins physiques et non à leurs besoins spirituels. Naomi nous rappelle ceux qui affirment être chrétiens, mais qui ne sont pas des chrétiens pratiquants. On dit souvent, quand j'étais catholique, moi on disait, je suis catholique non pratiquant. Je pense qu'il y a 99% des catholiques qui se disent catholiques non pratiquants. C'est comme un plombier qui a un diplôme de plombier, mais qui est plombier non pratiquant, quoi. Demandez-lui pas de faire un travail parce qu'il risque de faire beaucoup de dégâts, quoi. C'est la même chose avec un catholique non pratiquant, un protestant non pratiquant, un chrétien non pratiquant. Demandez-lui pas de vous montrer le chemin du ciel parce qu'il risque de vous envoyer en enfer, quoi. Elle connaissait le Seigneur, mais elle était un obstacle pour que d'autres en viennent à connaître Dieu. Frères et sœurs, non seulement est-ce que nous sommes des obstacles vis-à-vis de nos enfants pour les empêcher de connaître Dieu. Il reste le dernier de mes enfants qui doit prendre une décision pour le Seigneur. Je vous invite à prier pour lui. Parce que Josué résonne beaucoup. Et ma plus grande peur, c'est que j'ai pu être un obstacle dans sa vie pour qu'il prenne cette décision. Ma grande peur, c'est qu'il vient de me dire un jour, papa, c'est à cause de vous que j'ai jamais pris cette décision, que je ne la prendrai jamais. Nous pouvons être un mauvais témoignage pour nos enfants, mais est-ce que pouvons aussi être un obstacle pour empêcher nos enfants de prendre une décision pour le Seigneur par notre comportement, par notre vécu? Parce que si on vit le contraire de ce qu'on enseigne, on est en train simplement de dire à nos enfants qu'on vit une religion comme tout le reste du monde. C'est la relation avec Jésus-Christ qui va attirer nos enfants à passer par cette nouvelle naissance. C'est pas le baptême, hein? Le baptême, il ne sauve pas personne. Hein? La Bible dit pas « sois baptisé, sois sauvé ». Elle dit « d'abord crois et sois baptisé ». Le grand Gandhi, le fameux dirigeant indien qui a conduit l'Inde à obtenir son indépendance, a fait un jour cette déclaration époustouflante. « Je serais devenu chrétien si ce n'était pas à cause de la conduite de certains chrétiens. » Robert Ingersoll, un homme reconnu pour ses attaques dirigées contre la Bible, avait une tante qui vivait une relation personnelle avec le Dieu de la Bible et qui était une vraie disciple de Jésus-Christ. Il lui envoya une copie d'un de ses livres qui dénonçait la Bible. À l'intérieur de la couverture du livre, il lui avait écrit ceci. « Si tous les chrétiens vivaient comme toi, ma chère tante, peut-être que je n'aurais jamais eu besoin d'écrire ce livre. » Il y a beaucoup de personnes qui sont sur le chemin de l'enfer à cause des gens qui sont sur le chemin du ciel. Plusieurs chrétiens vivent une vie qui repousse les gens à venir à Christ plutôt que de les attirer vers lui. Ils sont une véritable plaie pour le nom de Christ plutôt qu'une lumière pour la cause de Christ. Dick Shepherd a dit que le plus grand handicap de l'Église, c'est le nombre de vies insatisfaites que l'on retrouve parmi ceux qui se disent chrétiens. Frères et sœurs, on chante un cantique, nous avons tout en Jésus-Christ, tout. Et même parmi les chrétiens, il y a des gens qui perdent leur vie à essayer de la gagner. Dick Shepherd, c'est pas n'importe qui. Et il dit que le plus grand handicap dans l'Église, c'est de voir des chrétiens qui aspirent à obtenir les mêmes choses que les gens du monde, parce qu'ils sont éternellement insatisfaits de la condition dans laquelle ils se trouvent. On a des richesses incroyables dans la personne de Jésus-Christ. On a des promesses extraordinaires qu'ils nous ont faites de la part de Dieu. Des promesses pour maintenant et pour l'éternité. Frères et sœurs, si on n'est pas plus satisfait que les gens du monde avec ce qu'on a de la parole, on est les plus malheureux des hommes, dit l'apôtre Paul. Parce qu'on a des problèmes non seulement avec la croix, mais aussi avec la résurrection de Jésus-Christ. Mais quand on sait que Christ est mort pour nos péchés, quand on sait qu'il est revenu de la mort à la vie, quand on sait qu'un jour il nous ramènera aussi de la mort à la vie, pour nous faire régner avec lui pour l'éternité sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux qu'il va créer, on est capable de dire non à tout ce que le monde peut nous offrir, qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Naomi, quoiqu'elle se disait croyante, décourageait Ruth et Orpa à la suivre. Combien il est triste de voir ceux qui connaissent Dieu devenir un tel obstacle au point d'empêcher les gens de connaître Dieu. La deuxième veuve, rapidement, c'est Orpa. Orpa représente ceux qui se détournent de Dieu, qui le rejettent comme sauveur et seigneur. Dans un premier temps, nous voyons qu'elle retourne chez elle dans le pays de Moab. Et elles élevèrent la voix, nous dit le texte, et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère. Verset 14, mais Ruth s'attacha à elle. Nous voyons les larmes couler sur ses joues, nous entendons les sanglots qui caractérisent souvent une séparation douloureuse. Orpa va décider quant à elle de retourner dans son pays. Elle place ses bras autour de Naomi, elle l'embrasse, elle la quitte. Il est vrai que Naomi l'avait découragée de l'accompagner dans le pays de Juda. Mais en fin de compte, la décision lui appartient. La décision, elle appartient à Orpa. C'est elle qui a pris la décision finale de retourner. Orpa a choisi de demeurer dans un pays maudit par Dieu. Elle a choisi de vivre dans un endroit de désolation et de noirceur spirituelle. Elle a choisi de retourner vers ses faux dieux. Pardon. Elle a décidé de continuer à vivre comme elle a toujours vécu. Elle aurait pu choisir de se rendre dans le pays de Juda, malgré le mauvais témoignage de Naomi, mais elle a choisi de demeurer dans le pays de Moab. Orpa nous rappelle ceux qui ont l'opportunité d'entendre l'Évangile et d'être sauvés et qui pourtant rejettent cette offre que Dieu leur a faite à travers le sacrifice de Jésus-Christ et qui choisissent de vivre une vie sans Dieu. Orpa nous rappelle ceux qui rejettent Christ et l'opportunité que Dieu leur offre d'être sauvés. En tant que prédicateur de la parole de Dieu, il n'y a rien de plus troublant et de plus triste que de voir des gens rejeter Christ et repousser l'opportunité d'être sauvés. Frères et sœurs, on entend souvent un évangile qui est dilué aujourd'hui, et l'offre qui est faite aux pécheurs perdus pour l'éternité, c'est, écoute, je t'en supplie, fais une grâce au Seigneur, fais une faveur, accepte-le. Ah, hey, la faveur, elle vient de Dieu, la grâce, elle vient de Dieu. On est perdu. Il n'y a aucune religion qui peut nous sauver. Amen. Il n'y a aucune religion qui peut nous sauver. Et dans sa grâce, dans son amour, dans son pardon, Dieu dit aussi sale que tu peux être, aussi pourri que tu peux être, aussi pire que tu peux avoir commise comme action dans ta vie, moi, je suis un Dieu qui pardonne encore aujourd'hui. Le trône, c'est pas un trône de jugement aujourd'hui, c'est un trône de grâce. Et quiconque s'approche du trône de sa grâce, eh bien, reçoit le pardon de ses péchés. Et pour recevoir le pardon de ses péchés, la Bible est claire, on doit se repentir et on doit se convertir. Ça, c'est le plus difficile. Dieu a fait le plus difficile. Le plus difficile, c'est du côté de l'homme maintenant. C'est de reconnaître qu'il est pécheur. C'est de reconnaître que Christ n'est pas mort pour rien sur la croix. C'est de reconnaître que je suis pécheur. Écoute, il n'y a aucune religion qui peut me sauver. Il y a juste toi, Seigneur Jésus, qui peut me sauver. Oui. T'as été foudroyé à la croix. Foudroyé pas parce que Dieu t'en voulait. Mais pour éviter que moi, je sois foudroyé par Dieu à cause de mes péchés, toi, t'as été foudroyé à ma place. T'as subi la colère que moi, je méritais. T'as subi le jugement que moi, je méritais. Et le châtiment, tu l'as porté sans ouvrir la bouche, Seigneur Jésus. T'es allé très loin, parce que les paroles que t'as dites, une des dernières, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ouais. Et c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et c'est vrai que quand on dit non, c'est pas ce qu'on fuse. Dieu nous ouvre les portes du paradis à travers la personne de Jésus-Christ. Ici, sur la terre, et pour l'éternité dans le ciel. Amen. Ouais, c'est important, ça. Comme il est tragique pour quelqu'un d'avoir entendu l'Évangile, d'avoir eu l'opportunité d'être sauvé puis de dire non à cette offre que Dieu lui a faite et de mourir dans ses péchés sans Dieu. Un nombre impressionnant de personnes qui ont eu l'opportunité d'être sauvées meurent chaque jour et attendent le jugement de Dieu dans le séjour des morts parce qu'ils ont rejeté le Dieu seul qui pouvait les sauver. Ce qui est tragique, c'est que Dieu ne désire, en aucun temps que quelqu'un passe l'éternité en enfer. Tous pourraient être sauvés, mais comme Orpa, ils ont rejeté l'opportunité d'être sauvés. La troisième veuve, et rapidement, je prends 5 minutes, troisième veuve dans notre passage, c'est Ruth. En elle, nous voyons quoi? Nous voyons une femme qui prend une décision qui va changer sa vie. Nous lisons qu'au lieu de quitter Naomi, verset 14, Ruth s'attache à elle. Ruth représente pour nous la personne qui dit oui à Jésus et à l'opportunité qui lui est faite d'être sauvée. La décision de Ruth est décrite dans ses paroles mémorables, versets 16 et 17. « Où tu iras, j'irai. Où tu me conduiras, Jésus, j'irai. » Hey, ça, c'est le plus difficile. Hein? Vous dites « Amen » à ça ce matin. « Là où tu me conduiras, Jésus, j'irai. Hey, » c'est ce que Ruth dit. Hein? « Où tu demeureras, je demeurerai. Seigneur Jésus, où tu veux que je m'installe, je m'installerai. » Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. » Et ça, c'est toute une prière, hein? Faut avoir la foi pour dire ça. « Seigneur, si je m'écarte à droite ou à gauche, foudroie-moi, c'est ça, hein? Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. » La décision prise par Ruth lui donne une nouvelle vie. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Elle quittait un pays maudit pour aller vivre dans un pays béni. Elle quitte un endroit où régnait une noisseur spirituelle pour aller vivre dans un endroit où Dieu qui est lumière s'est fait connaître à un peuple. Elle quitte un pays où elle délaissait une vie sans Dieu pour adopter un pays et une vie où le vrai Dieu vivant pouvait être adoré. Sa décision va lui permettre de commencer une nouvelle vie avec Dieu. Et si ce matin c'est votre cas, c'est ce que vous vivez ce matin, si vous vivez une vie sans Dieu, Dieu veut se révéler dans vos vies. Dieu veut que vous commenciez une nouvelle vie dans votre vie, une nouvelle vie avec lui. Dieu veut ce matin bouleverser vos vies. Simplement lui dire oui. Oui, Seigneur, bouscule-moi ce matin. Ouais. Vous me regardez tous, hein? Il y a à peu près 80 paires de yeux ce matin. On n'est pas beaucoup. Moi, je peux regarder vos yeux. Il y en a qui ont de l'air tristes, il y en a qui ont de l'air joyeux, il y en a qui sont au neutre. Mais Dieu lit dans vos cœurs ce matin. Et Dieu sait ce que vous avez besoin. Dieu sait ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de le rencontrer à la croix. Et il y a un miracle extraordinaire qui va se passer. Et à la croix, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est jamais venu? On dit, Seigneur, prends-moi tel que je suis. Seigneur, je ne suis pas là pour tout débouler, pour tout dévoiler mon passé. Tu connais mon passé. Seigneur, prends mes péchés. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton pardon. Remplis-moi de ta bonté, Seigneur, parce que je reconnais que sans toi, je suis perdu. Christ est mort pour moi et votre vie va être complètement bouleversée. Je vous dis, il y a un miracle qui va se passer. Et c'est pas une décision facile à prendre. Je le sais, je l'ai faite il y a 27 ans. On hésite. On regarde les gens autour de nous. Ils sont pas pareils comme les autres à l'extérieur. On est dans une église qui a une très mauvaise renommée aujourd'hui. Alors qu'on sait très bien dans le milieu évangélique que l'Église, c'est pas le bâtiment, c'est les gens. C'est les gens. Jésus n'est pas mort pour le bâtiment, Jésus est mort pour les gens. C'est les gens qui sont importants pour Dieu, pas le bâtiment. Ce sont les gens. Et peu importe qui vous êtes ce matin dans ce lieu, vous êtes une personne très importante aux yeux de Dieu. Vous êtes unique aux yeux de Dieu. Si vous aviez été la seule personne perdue pour l'éternité sur cette terre, Dieu en Jésus-Christ se serait fait homme pour venir vous sauver. Parce qu'il vous aime et parce qu'il nous aime tous de façon égale. Ça, c'est l'amour de Dieu. La Bible, à plusieurs versets, nous dit « Dieu ne fait pas de favoritisme. » Et c'est pour ça que je crois que Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Sa décision va lui permettre de commencer une nouvelle vie avec Dieu. Dès que quelqu'un est unis au Christ, nous dit l'apôtre Paul, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, là, il y a des gens, hein, ils embarquent dans la psychologie, ils embarquent dans tout, parce qu'ils disent, moi, j'ai tel problème dans la vie, je suis pas capable de le régler. Hey, mais Paul, et ils lisent ce passage-là, ils disent, je comprends pas, je le lis, ça s'applique pas. Mais Paul est en train de parler d'une nouvelle naissance, ici. Si tu es un religieux, ce verset-là, il s'applique pas à toi. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau, ce qui est ancien a disparu. Nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, le chemin des miracles commence dans ta vie. Dieu va transformer ta vie. Tu n'auras pas besoin de la doctrine des hommes. La personne de Jésus-Christ, à travers sa parole, est suffisante pour te guérir, pour te purifier, pour te nettoyer, pour te libérer. Amen. Mais il faut passer, vivre cette expérience de la nouvelle naissance pour que ce verset-là devienne une réalité dans nos vies. Les gens disent, je l'ai lu, mais ça n'a jamais changé. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as fait cette expérience personnelle? Est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ le ressuscité dans ta vie? Oui? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu l'as rencontré? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie depuis que tu as rencontré Jésus-Christ? Dresse-moi la liste. Tu veux savoir si tu es né de nouveau ce matin? Dresse la liste. Quels sont les changements? Tu as juste levé la main, tu as pris une décision? Tu crois en Jésus? Le diable y croit, nous dit la parole dans Jacques. Mais il tremble. Et pourquoi il tremble? Le diable ne s'est jamais repenti, il ne se repentira jamais, puis il sait qu'il y a un jugement qui l'attend. La nouvelle naissance, c'est important. Un homme parlait sur le coin d'une rue, il disait, le communisme vous donnera un nouveau travail. Le communisme vous donnera une nouvelle maison. Le communisme vous donnera un nouveau manteau à porter. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici devant moi s'il y a quelqu'un qui peut offrir quelque chose de mieux? Et un vieil homme qui fait un petit pas en avant, qui s'avance, qui sort de la foule et qui dit, je connais quelqu'un qui peut offrir quelque chose de mieux, c'est le salut en Jésus-Christ. Le salut donnera un travail à un homme dont la vie était complètement transformée. Le salut donnera un travail à un homme, le salut donnera une maison à un homme dont la vie était complètement transformée. Et le salut donnera un nouveau manteau à un homme dont la vie était complètement transformée. Oui, quelqu'un qui baigne dans l'alcoolisme, qui vit dans la rue, un sans-abri qui vit dans la rue, quand il rencontre la personne de Jésus-Christ, quand il est libéré de tous ses vices, quand il est restauré dans son corps, dans son âme et dans son esprit, oui, ces choses sont possibles. Amen. Oui, c'est important. Le monde civilisé aujourd'hui crache sur le christianisme. Mais la Croix-Rouge, c'est quand même des chrétiens qui l'ont fondée. Des pays où on a l'assurance maladie, on a toutes ces choses aujourd'hui, tous ces services sociaux qu'on a, c'est des pays qui avaient un arrière-plan chrétien. On peut cracher sur le christianisme aujourd'hui. Hein? Mais allez dans d'autres pays qui connaissent pas Jésus. Ouais. Laisse crever les enfants dans les rues. Laisse crever les femmes dans les rues. Hein? Ils ont aucune aide, quoi. Ouais. Eh bien, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce au christianisme et notre crise est en train de nous enlever un par un. Un par un. Frères et sœurs, on encourt la personne de Jésus. Ruth dit, là tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Ruth était en train de dire, cette décision que je la prends pour le restant de ma vie. Non seulement elle n'avait aucun désir de retourner en arrière, mais elle ne la planifiait même pas. La décision qu'elle venait de prendre maintenant, c'était pour l'éternité. Quelle raison aurait-elle eu de retourner dans le pays de Moab? Quelle raison aurions-nous, frères et sœurs, de retourner dans le monde? Aucune. Sinon une vie sans espoir et vide de sens. Mille fois non merci. Il n'y a rien derrière nous qui peut nous satisfaire. Et toutes les promesses de Dieu sont devant nous. Toutes les promesses de Dieu sont devant nous. Amen. Toutes les promesses de Dieu sont devant nous, frères et sœurs. Chers amis, chacun de nous, nous pouvons nous retrouver dans l'une de ces trois veuves dans laquelle vous vous retrouvez ce matin. Dans laquelle des trois veuves vous vous identifiez ce matin. On va terminer par un moment de prière. Courbons la tête et fermons les yeux. Je ne sais pas dans laquelle des trois veuves vous vous reconnaissez ce matin. Mais si Dieu parle à votre cœur ce matin, s'il y a des questions qui font surface dans votre cœur, eh bien, le Seigneur a les réponses à vos questions. Et si, comme Ruth, eh bien, vous voulez changer de vie, adopter, rencontrer ce Seigneur Jésus, eh bien, c'est très simple. Pendant que les têtes sont baissées, que les yeux sont fermés, je vais vous inviter à faire une prière. Et dans votre cœur, vous avez juste à répéter après moi. Je ne fais pas d'appel, simplement répétez après moi. Dieu connaît vos cœurs. Dieu sait ce que vous vivez. Je peux vous dire une chose, Dieu est vivant et Dieu va, si vous faites cette prière avec sincérité, eh bien, Dieu va commencer aujourd'hui une œuvre nouvelle dans vos vies que vous ne regretterez jamais. La seule chose que vous regretterez, c'est de ne pas avoir pris cette décision avant. Seigneur, mon Dieu, ce matin, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ton évangile. Je n'ai pas tout compris. Seigneur, tu connais ma vie. Et tu connais mes erreurs. Tu connais mes échecs. Tu connais mes péchés. Tu connais mes faiblesses. Seigneur, en entendant l'Évangile ce matin, j'ai réalisé, Seigneur, combien tu étais bon pour moi. Combien tu m'as aimé. Tu nous dis dans ta parole que nous avons tous péché. Personne n'a pas péché, toi seul, Seigneur, qui étais parfait, tu es venu sur la terre sans péché. Nous sommes tous pécheurs et tu nous dis que la conséquence de notre péché, c'est la mort. Mort spirituelle et mort éternelle. Et ce matin, Seigneur, à travers l'Évangile, tu nous donnes une espérance extraordinaire. C'est qu'à travers le sacrifice de Jésus, je peux recevoir le pardon de mes péchés et à travers sa résurrection, la vie éternelle. Seigneur, ce matin, je me présente devant toi en toute humilité. En reconnaissant que j'ai péché contre toi, j'ai désobéi à ta loi. Et que sans toi, Seigneur, je suis perdu. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ sur la terre. Payer la dette de mes péchés. Subir à ma place la condamnation. Afin que je puisse être réconcilié avec toi. Et commencer une nouvelle vie. Avec toi, dans ta présence. Seigneur, ce matin, je te remercie pour le pardon que tu m'accordes. Je t'invite à habiter dans mon cœur, Seigneur, par ton esprit. Et Seigneur, je prends la décision de commencer à marcher avec toi et obéir à ta parole. Merci pour ton Église, merci pour la famille spirituelle que tu m'as donnée. Et Seigneur, que tu puisses vraiment me fortifier et me soutenir en toutes choses. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen.